Chapitre 80. Born to be wild, Steppenwolf. Ça n'était pas prévu. C'est la rencontre à Devil's Elbow qui nous a donné l'idée. On a vérifié que le permis de mon père se trouvait dans son portefeuille. On a attendu d'atteindre les décors désertiques, semblables à ceux du film Easy Rider. On a pesé le pour et le contre, pris en compte ces troubles spatio-temporels. On a décidé qu'un rêve valait bien quelques risques. On lui a juste imposé le casque, facultatif ici. On n'a aucun regret. Il faut le voir, fendant le Far West sur sa monture pétaradante, ses longues guiboles pliées, ses bras tendus vers l'avant. Les montagnes assoiffées lui font la haie d'honneur. Des grappes de nuages joufflus l'accompagnent paresseusement. On roule juste derrière lui, la musique à fond, larmes aux yeux. Il n'y a pas cru, quand on s'est garé devant l'agence de location. Sa Harley était prête, drapeau tricolore flottant à l'arrière. Il nous regardait, hébété, comme un gamin devant un cadeau trop beau pour lui. Dès les premiers tours de roue, l'assurance a pris le dessus. « C'est comme le vélo !» nous a-t-il dit quand on lui a demandé s'il savait toujours conduire une moto. « Ça ne s'oublie pas !» La dernière fois, c'était il y a une vingtaine d'années, au mariage de sa sœur. Une haie de motards dont il faisait partie escortait le jeune couple. Sa vieille guimbarde est tombée en panne ce soir-là. Il n'a jamais eu les moyens d'en acheter une autre. « Il est à sa place !» murmure Adèle. C'est exactement ça. Même à cette distance, on remarque son corps détendu, comme apaisé. Il salue d'un geste les motards qu'il croise. Ceux qui l'aperçoivent ne peuvent imaginer que cette carcasse fringante abrite une raison qui se noie. Je monte le son. Les barbus de ZZ Top jouent la grange. Il n'y a rien de plus déchirant qu'une chanson joyeuse sur un moment triste. Il ralentit à la bord d'une station-service, puis s'y engage, sans avoir signalé son intention. Nous le suivons et nous garons à côté de lui. Quand il tourne la tête dans notre direction, ma gorge expulse un sanglot silencieux, comme un soubresaut, un spasme qui ne me laisse pas le choix. Mon corps n'a pas supporté autant de bonheur. Je n'ai jamais vu son visage aussi radieux. C'est encore pire quand il retire ses lunettes de soleil. Il y a dans ses yeux cet éclat, comme un soulagement, un abandon. Celui qu'on trouve dans le regard de ceux qui ont enfin trouvé ce qu'ils avaient longtemps cherché. Il est arrivé. « Je sais pas où j'ai mis mes clopes !» fait-il en tâtant les poches de son jean. Je lui en tends une avec son briquet. Il allume la cigarette et caresse la selle de la Harley. « C'était mon rêve. » Il lâche l'information comme si c'était la première fois qu'il nous la donnait. « Et alors ?» questionne Adèle. « C'est aussi bien que dans ton imagination. » Il réfléchit quelques secondes et tire sur sa clope. « Ça remue, j'ai le dos en compote. J'ai bouffé un paquet de moucherons, mais j'ai l'impression d'avoir 20 ans et la vie devant moi. Je me suis jamais sentie aussi libre. J'ai toujours cru qu'il fallait pas réaliser ses rêves. Je pensais que la réalité était forcément moins bien. Comme quoi, ça m'arrive de me tromper. » On rit, comme à tout ce qu'il dit désormais. On a passé des années à lever les yeux au ciel face à ces blagues pas forcément drôles. Et maintenant, on les attend, on les espère. On ne veut pas qu'elles disparaissent. Il jette sa cigarette dans la gourde que l'on a transformée en cendrier au début du périple et nous dévisage gravement. « J'ai pas toujours été un exemple, mes filles. Mais là, il faut que vous m'écoutiez. Vous devez réaliser vos rêves d'enfant. » « Vous en avez, pas vrai ?» Ma sœur hoche la tête. « Je voulais toucher mon nez avec ma langue. Encore quelques années d'affaissement et j'y arriverai. » Elle fait une démonstration de sa souplesse. Mon père ne rit pas. Manifestement, il prend les rêves très au sérieux. Elle reprend. « Je voulais adopter une baleine et sauver le monde de la misère. À un moment, il faut savoir renoncer. » Je me rappelle sa période baleine, qui a duré jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'elle serait malheureuse dans une baignoire. « On a prévu de partir au Canada pour essayer d'en voir. » se justifie-t-elle. On attendait que Nolan soit assez grand.
Tu pourrais essayer d'en kidnapper une,
raillit mon père. Et toi, Microbe, c'était quoi ton rêve? Il me faut plusieurs secondes de réflexion. Pourtant, il m'a accompagnée pendant longtemps. Je voulais être écrivaine. Je suis tombée amoureuse du premier livre que j'ai lu. C'était intense, fusionnel, sensuel. J'aimais le murmure de ses pages tournées, la douce âpreté de son papier sous mes doigts. J'aimais son odeur. Il m'emmenait loin de ma vie, dans des contrées inexplorées, dans des émotions vierges. Je passais le plus clair de mon temps avec lui, et quand je ne le pouvais, je n'avais qu'une hâte, le retrouver. Le soir, je m'échappais du quotidien pour le rejoindre sous la couverture. Quand j'ai tourné sa dernière page, j'ai connu mon premier vrai chagrin. Il était là, à portée de main, mais il n'y avait plus ce goût des premières fois, l'excitation de la découverte. C'est un autre qui m'a consolée. Puis, de ce deuxième, un troisième m'a guérie. J'ai enchaîné les aventures littéraires, chacune me laissant une trace indélébile. J'étais une lectrice infidèle, mais une lectrice avide et passionnée. J'ai rapidement compris que les mots détenaient le pouvoir suprême, celui de faire vivre d'autres vies que la sienne, et de provoquer des émotions intenses, rien qu'en étant posés les uns à la suite des autres. J'ai commencé à écrire des poèmes, pour ma sœur, pour ma mère, pour mon père, ma grand-mère, pour les anniversaires, les Noëls, et sans raison aussi. Je cherchais le mot précis, la tournure exacte, le bon rythme, et rien, rien au monde ne me procurait plus de plaisir que de les trouver. Quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je répondais invariablement « raconter des histoires ». J'ai gagné un concours de nouvelles au collège. Tout le monde, professeur et famille, louait ma plume et mon imagination. J'avançais dans la vie avec cette certitude. Je serais écrivaine. Mais j'ai fait une mauvaise rencontre. La maturité. Elle m'a dit que c'était une chimère, qu'il fallait que je sois sérieuse, que personne ne me lirait, que je devais laisser ça à ceux qui avaient du talent. Elle m'a répété que je n'en étais pas capable. Et je l'ai cru. Alors j'ai rangé mon rêve dans un placard, et mes livres avec. Je n'ai pas lu un roman depuis près de 20 ans. Mon rêve s'est éteint en même temps que mon enfance. La raison m'avait rattrapée par la peau du cou.
« J'ai gardé tes poèmes, » répond ma sœur. « T'étais douée ?»
Mon père s'esclaffe.
« T'auras qu'à écrire un livre sur le vieux qui réalise son rêve. Bon, allez les filles, on reprend la route !»
Il est passé à autre chose. Sans attendre notre réaction, il enjambe la moto et remet ses lunettes. J'avise le second casque fourni par l'agence de location posé sur le siège arrière. Adèle m'encourage d'un sourire. À peine a-t-on repris la route que j'ai déjà le dos en compote et bouffé un paquet de moucherons. Mais je m'en fiche, parce que je suis la passagère du bonheur de mon père.